France Inter.
Bonsoir à tous. Au sommaire ce soir. Le jour où les États-Unis sont entrés en guerre contre l'Iran, Washington se dit ce soir prêt à discuter avec Téhéran sur son programme nucléaire civil. Programme dévasté selon les éléments de langage américains. Nous reviendrons en détail sur les objectifs de guerre revendiqués par le Pentagone. L'Iran a tiré aujourd'hui plusieurs salves de missiles sur Israël, provoquant d'importants dégâts, quelques blessés. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence ce soir à 21h, heure française. À Paris, ce sera dans une demi-heure. Emmanuel Macron va présider un conseil de défense à l'Élysée. Toutes les explications et comptes rendus à suivre. Dans le reste de l'actualité, ce mariage qui a viré au drame dans le Vaucluse, deux personnes dont la mariée sont mortes sous les balles de plusieurs assaillants. En sport, la mort du handballeur français Denis Latou, de l'époque des Bargeaux, champion du monde en 1995. Il avait 59 ans. Enfin, je vous proposerai un jeu vidéo à la fin de ce journal pour jouer au football de façon toujours plus réaliste. Ronaldinho a même adoré. Reportage à venir. Et puis le temps de ce lundi, Magali Rochereau. Il y a d'abord deux départements qui vont rester en vigilance canicule jusqu'à minuit, le Rhône et l'Isère. Et puis demain, donc, les températures vont continuer à baisser.
Oui Eric, le temps est plus frais avec l'arrivée de cette perturbation sur le centre et le centre-est du pays qui apporte orages et petites averses.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. Ça fera partie des éléments de langage américains qui feront date après avoir massivement frappé trois sites nucléaires en Iran la nuit dernière avec un impressionnant arsenal de bombes perforantes et d'avions furtifs. Le vice-président américain J.D. Vance affirme que les États-Unis ne sont pas entrés en guerre contre l'Iran mais contre son programme nucléaire. L'objectif n'était donc pas de renverser le régime iranien. Ce soir, les États-Unis se disent même prêts à discuter avec l'Iran sur son programme nucléaire civil. Bonsoir Benjamin Hilly.
Bonsoir.
En ligne des États-Unis, il y a quelques heures, le chef du Pentagone a détaillé tous les objectifs de guerre de cette opération militaire.
Cette opération porte un nom révélé par Dan Kane, le chef d'état-major des armées. Marteau de minuit. C'était une mission complexe et à haut risque menée à bien grâce à des compétences exceptionnelles. Sept bombardiers furtifs B-2 ont été mobilisés, un trajet de 18 heures depuis leur base américaine, rendu possible grâce à de nombreux ravitaillements en vol. Au total, 14 bombes anti-bunker de plus de 13 000 kilos ont été largués, soit la première utilisation opérationnelle de cette arme, selon Dan Kane, qui pèse ses paroles. Cette opération était conçue pour sévèrement dégrader les infrastructures nucléaires de l'Iran, qui ont subi de graves dommages.
Well, thank you for joining us this morning.
Pete Hegseth, le secrétaire à la défense, lui, est moins timide dans le choix des mots.
It was an incredible,
ce fut un incroyable et écrasant succès. Nous avons
dévasté
le programme nucléaire iranien. Pete Hegseth menaçant, qui cite le commandant en chef, toute représailles de l'Iran contre les États-Unis sera confrontée à une force bien plus grande que celle dont nous avons été témoins. Signé Donald Trump.
Thank you very much. Appreciate it.
Benjamin Hilly, reportage en duplex d'Atlanta aux États-Unis. Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir en urgence à New York à 21h heure de Paris à la demande de l'Iran, un conseil de sécurité dont les États-Unis, la France, la Chine, le Royaume-Uni et la Russie sont des membres permanents. Les États-Unis doivent recevoir une réponse à leur agression, c'est ce que dit ce soir le président iranien. Et concernant les ambitions nucléaires iraniennes, le régime affirme que son savoir-faire ne pourra jamais être détruit. Aujourd'hui, l'Iran a plusieurs fois ciblé l'État hébreu, Israël en alerte, la population régulièrement confinée, ce qui n'empêche pas l'opinion israélienne de soutenir largement ce que l'armée israélienne décrit comme l'opération militaire la plus complexe de son histoire. C'est ce que montrent en tout cas les sondages d'opinion en Israël. En revanche, concernant les frappes américaines, eh bien les avis semblent plus partagés, si l'on en croit ce reportage dans les rues de Jérusalem. Reportage de notre correspondante Alice Moreno.
La scène semble surréaliste. Dans Jérusalem quasi déserte, une jeune femme pose en robe de mariée. Sa mère l'accompagne, maquillée et habillée pour la cérémonie, qui se déroulera ce soir.
Nous sommes orthodoxes et donc on ne décale pas un mariage qui était prévu. On essaie de tout faire plus tôt à cause de l'état d'urgence. C'est un jour très spécial, plein d'émotions pour moi, même si c'est la guerre ici et que ça fait peur.
Un jeune homme franco-israélien affiche quant à lui très clairement son soutien à l'entrée en guerre des États-Unis.
Enfin, je pense que c'est pour la bonne cause, quoi. Ils sont avec nous, donc ils vont nous aider, ils vont combattre avec nous. Même s'il y a tout le monde entier contre nous, on gagnera.
L'accès à la vieille ville est fermé aux visiteurs. Porte de Damas, un Palestinien de Jérusalem-Est, ne cache pas son inquiétude.
Aujourd'hui, on est revenu à une situation similaire au premier jour de la guerre. Les gens ont peur de descendre dans la rue, dans les commerces. La violence va s'intensifier dans la région et ce n'est dans l'intérêt de personne.
Il regrette l'entrée en guerre des États-Unis et déplore la volte-face de Donald Trump dans le dossier du nucléaire iranien. À Jérusalem, Alice Moreno, France Inter.
Et l'Iran affirme qu'il n'y a aucun danger pour la population vivant à proximité des installations nucléaires attaquées la nuit dernière par les États-Unis. L'AIEA a d'ailleurs précisé ce matin qu'elle n'avait détecté aucun taux de radiation anormale autour des sites nucléaires de Natanz, Ispahan et Fordo. À Paris, une partie de la diaspora iranienne s'est donné rendez-vous cet après-midi au Châtelet pour un rassemblement contre la guerre en Iran. Plus de 400 personnes réunies. Bonsoir Anne-Lie Viatolinki.
Bonsoir.
Et parmi les manifestants, beaucoup de réfugiés iraniens venus soutenir le peuple civil.
Oui, ils sont nombreux sur cette place du Châtelet à avoir de la famille en Iran, des proches. Mes sœurs, mes cousines ne méritent pas de mourir sous les bombardements, me disait à l'instant Noucha, le visage maquillé en vert, rouge et blanc, les couleurs du drapeau iranien. On nous tue, mais nous, c'est moins grave que les autres, ajoute un homme derrière avec sa pancarte. Le peuple combattra, Trump tombera. Beaucoup ici voient en l'intervention américaine une violation du droit international. Tous se disent contre le régime iranien, mais se sentent doublement victimes. Pour reprendre les mots de Nadia, qui cache ses larmes derrière son éventail, « Nous voulons la liberté, nous ne voulons que ça depuis le début, mais les bombes ne nous ont jamais aidés, elles ne font qu'envenimer la situation. » Les manifestants craignent aussi des pénuries à venir en Iran, de carburant, de nourriture. Ils en appellent à la France et à l'Europe pour peser dans la balance et remettre l'Iran et les États-Unis autour de la table des négociations.
Voilà pour ce reportage à Paris-Châtelet, signé Anne-Livia Tolinki. La France n'a pas participé aux frappes américaines la nuit dernière, c'est la précision de Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères. On a d'ailleurs été parfois surpris ce matin du silence radio d'Emmanuel Macron. Le chef des armées françaises s'est contenté de faire savoir qu'il avait eu au téléphone le président iranien et plusieurs dirigeants du Golfe pour défendre sa stratégie de la négociation. Bonsoir Lou Bourdi.
Bonsoir.
Service politique de France Inter. La voix du président Macron, eh bien, elle va s'exprimer ce soir à partir de 19h30 à l'Elysée pour un conseil de défense.
Oui, un conseil de défense et de sécurité nationale. Emmanuel Macron sera entouré de plusieurs ministres ou représentants de ministères, celui de la défense, de l'intérieur ou encore des affaires étrangères. Mais le président de la République ne devrait pas prendre la parole à l'issue du conseil car l'Elysée a envoyé à l'instant un communiqué de presse. Une déclaration commune des dirigeants de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Nous affirmons tout notre soutien à Israël, écrivent les trois chefs d'État au sujet des frappes américaines de cette nuit. Les dirigeants répondent avec cette phrase « Notre objectif reste d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire ». Emmanuel Macron a pris la parole seul, cette fois sur le réseau social X. Un peu plus tôt dans l'après-midi, il assure avoir échangé avec plusieurs de ses homologues, vous l'avez dit, au Moyen-Orient et notamment le président iranien. J'ai appelé à la désescalade, déclare le président français. Pour lui, un engagement clair de l'Iran de renoncer à l'arme nucléaire est le seul chemin qui mènera vers la paix. Un message attendu car seul Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, avait jusqu'ici réagi aux attaques américaines.
Lou Bourdi, et ce conseil de défense et de sécurité nationale ce soir va devenir le prélude à un intense ballet diplomatique en vue du sommet des pays membres de l'OTAN. Ce sera mardi et mercredi, sommet qui sera suivi d'un autre sommet européen des 27, jeudi et vendredi à Bruxelles, avec à chaque fois les questions de défense en Europe. Et dans ce contexte de tensions internationales, les Européens, qui n'ont pas d'armée commune, remettront le sujet sur la table. Fabien Cazot.
Comment transformer l'Union européenne en machine de guerre? C'est finalement la question qui sous-tendra l'ensemble des discussions qui se tiendront au plus haut niveau la semaine prochaine. D'abord à l'OTAN, où la question du financement de l'effort de défense conjoint face à la menace russe sera au cœur des débats. Puis au sommet européen, où les chefs d'État et de gouvernement passeront en revue les grands dossiers internationaux, comme le soutien à l'Ukraine, les sanctions contre la Russie et bien sûr l'attitude à adopter face au conflit au Proche et au Moyen-Orient. Un sujet fait consensus, la nécessité de relever le niveau des dépenses militaires en Europe. D'abord exigé par Donald Trump, les diplomates européens expliquent à présent que cet effort budgétaire n'est pas fait parce qu'on nous le demande, mais parce que nous nous le devons à nous-mêmes. Encore faut-il convaincre les opinions publiques de l'urgence de ce nouvel agenda européen. Il impliquera des sacrifices budgétaires dans d'autres domaines. La question d'un grand emprunt commun européen auquel la France est favorable étant toujours en suspens.
Fabien Cazot, correspondant de France Inter à Bruxelles. Un dernier mot sur ce conflit israélo-iranien. Concernant les ressortissants français en Israël, un avion de 152 places doit quitter Amman ce soir en Jordanie. La France dit mettre tout en œuvre pour accélérer le départ des Français qu'ils souhaitent d'Israël comme de l'Iran.
France Inter, Éric Delvaux.
Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau annonce ce soir l'arrestation d'un jeune de 17 ans. Il est soupçonné d'avoir des projets d'attentat au nom de l'État islamique. Dans le Luberon, le mariage a tourné à la fusillade. Vers 4h30 du matin, dans la commune de Goult, 4 assaillants ont fait irruption, Kalachnikov et autres armes à la main. Il y a 2 morts, dont la mariée, et 3 blessés graves, dont un enfant, Hugo Silou.
Les jeunes mariés s'apprêtent à quitter la fête quand une autre voiture arrive et vient bloquer leur véhicule par l'arrière. À l'intérieur, 4 individus, cagoulés et équipés de plusieurs types d'armes à feu. Les assaillants descendent, tirent et tuent la mariée de 25 ans. Son époux est gravement blessé, tout comme un enfant de 13 ans et une proche de la famille qui était sur la banquette arrière. Dans l'assaut, l'un des assaillants reçoit au moins une balle et est percuté par la voiture des mariés. Il ne survit pas à ses blessures. Les 3 autres s'enfuient à pied. Le marié, comme son agresseur, étaient tous deux connus de la police pour verser dans le trafic de stupéfiants. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte. Alors, pour retrouver les fuyards, un hélicoptère, des drones et une centaine de gendarmes ont été mobilisés. Le parquet d'Avignon a ouvert une enquête pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée. Elle a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Marseille.
Hugo Ossilou, ici Vaucluse. Ce devait être une fête de l'école, une kermesse pour la joie des plus jeunes et des parents. À Pont-l'Abbé, dans le Finistère, un homme de 25 ans a été poignardé à la gorge hier soir. Il est grièvement blessé, secouru par des parents médecins avant d'être transporté à l'hôpital. 2 suspects ont été interpellés. L'agression a eu lieu sous le regard de nombreux témoins, notamment le maire de Pont-l'Abbé, Stéphane Le Doharé, présent donc sur place et encore sous le choc.
C'est extrêmement choquant. Enfin, je veux dire, on était même un peu groggy. La fête des écoles se passait très bien, les enfants allaient défiler, faire leur spectacle, je sais pas, il y avait entre 800 et 1000 personnes au Bois-Saint-Laurent, on allait attaquer la partie bal populaire et au coin de la buvette, il y avait beaucoup de monde. Moi j'étais à quelques mètres de la victime. En fait, il y a une personne extérieure à la fête qui a descendu une partie du Bois-Saint-Laurent, qui est venue poignarder une personne qui était à l'angle de la buvette et qui est repartie en courant. J'allais dire, dans le malheur des choses, on a eu la chance d'avoir des médecins, des pompiers, des infirmiers, des parents, en fait, qui étaient là dans ce métier. Et très vite, ben, on a pu porter secours dans les meilleures conditions. Mais très choquant que ça se passe à une kermesse d'école, une fête d'école, oui.
Voilà, à propos recueilli par Lucille Occoni, ici Bresse-Isel. Et selon Le Parisien, aujourd'hui en France, la piste d'un règlement de compte sentimental est privilégiée. Au lendemain de la fête de la musique, le bilan sécuritaire fait apparaître plus d'une centaine de cas de piqûres sur des femmes. À la suite de plusieurs appels sur les réseaux sociaux pour aller piquer les femmes, justement, durant cette fête de la musique. Par ailleurs, 305 personnes ont été placées en garde à vue pour différents délits. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur qui ne note aucun incident majeur. L'avenir du système de retraite en France. Les partenaires sociaux auront demain leur ultime session de conclave, avec au bout peut-être un improbable compromis. Cela tient notamment à la position qu'adoptera le MEDEF, le patronat qui aura traîné les pieds jusqu'au bout pour ralentir les discussions. Et il ne dira d'ailleurs que demain matin s'il participera ou non à cette dernière séance. Raymond Soubi, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, il est expert en dialogue social et président d'Alexio Group. Il explique pourquoi le patronat a si peur de conclure avec les syndicats sur ce dossier des retraites.
La crainte la plus ultime du MEDEF, c'est que le processus du conclave a été créé par le Premier ministre pour déblayer le sujet avant un passage devant le Parlement pour lequel il s'est engagé. Bien. Et là, la crainte du MEDEF, c'est que s'il fait des concessions sur les sujets âge de la décote, critères de pénibilité, etc., il n'a pas la garantie aujourd'hui que devant le Parlement, il n'y ait pas un retour sur l'âge de la retraite. Vous voyez ? Et ce qui inquiète en réalité le patronat, c'est de dire c'est un beau sujet, c'est un grand sujet, mais le traiter dans ce contexte-là, dans le qui est si incertain parce qu'il est politique, non. Et en fait, le MEDEF ne veut pas faire des concessions pour en plus se trouver prisonnier de ça après coup.
Propos de Raymond Soubi, recueilli par Maxime Deps. Le calendrier budgétaire de la France va s'accélérer. Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, annonce que tous les groupes politiques seront reçus à Bercy avant le 11 juillet, c'est-à-dire avant la fin de la session parlementaire. François Bayrou doit présenter ensuite son plan de budget 2026 qui prévoit, on vous le rappelle, 40 milliards d'euros d'économies. En handball, il faisait partie de la mythique équipe de France dite des Bargeaux, championne du monde en 1995, ancien joueur international. Le français Denis Latou est mort la nuit dernière, victime d'un cancer. Marion Ferrer, bonsoir.
Bonsoir.
Il avait 59 ans.
Et joueur emblématique de cette équipe, vous l'avez dit, qui a fait basculer le handball français vers les sommets. Denis Latou, aux côtés de Jackson Richardson, Stéphane Stocklin ou encore Philippe Garon, a remporté le bronze olympique en 92 à Barcelone, l'argent mondial en 93, mais surtout, il y a eu cette épopée en 95 en Islande avec à la clé le titre mondial où Latou, arrière-gauche, a joué un rôle décisif et c'est là que le mythe des Bargeaux s'est créé. Du haut de son mètre 98, Latou était surnommé Le Grand, un surnom taillé pour lui selon son coéquipier Philippe Garan.
Le Grand, au-delà du joueur que vous connaissez, il n'y a personne qui aurait pu porter un surnom aussi bien que lui, parce que Le Grand, on aurait pu dire aussi d'immense, parce que voilà, il était énorme ce gars. Pour nous, c'est une grande perte, et pour le handball français, bien évidemment, et le sport, comme il a toujours été d'ailleurs. Le Grand, on va pas le pleurer ce soir, on va le fêter.
Denis Latou, également qualifié par Jackson Richardson comme un grand frère pour le groupe, joueur et humble. Le Grand avait porté le maillot bleu à 164 reprises, marqué 463 buts pour l'équipe de France et consacré jusqu'au bout sa vie au handball en terminant sa carrière comme entraîneur.
Marion Ferrer. Dans le monde du jeu vidéo, voilà un petit studio français qui vient défier le géant Electronic Arts et sa série EA Sport FC que les plus anciens connaissent sous le nom de FIFA. Le jeu s'appelle aujourd'hui Rematch, en vente depuis jeudi. Son développeur Slow Clap veut révolutionner le jeu du football en vidéo avec des affrontements multijoueurs à 5 contre 5 sur des terrains futuristes et fermés. L'objectif, c'est de donner l'impression de réellement jouer au football et plus seulement de regarder un match virtuel. Olivier Bénis a visité ce studio français.
Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit un dieu vivant du football dans ses bureaux et les équipes de Slow Clap ont récemment vu débarquer Ronaldinho dans leur open space pour tester leur jeu en avant-première.
Bonjour.
Car Rematch s'adresse presque plus à ceux qui aiment jouer au foot qu'à ceux qui aiment le regarder. Pierre de Margerie est l'un des fondateurs du studio Slow Clap.
Ça vient d'abord d'une envie créative. Proposer aux joueurs et aux joueuses une expérience plus immersive, plus tactile, plus intense, plus proche des joueurs que ce qu'on voit actuellement dans les autres jeux de football. C'est aussi un jeu qui simule ce que c'est que l'expérience de vraiment jouer au football.
Un pari pour ce studio parisien après le succès en 2022 de Sifu, lauréat d'un Pégase, un jeu d'action exigeant, hommage aux films d'arts martiaux.
You want revenge? Show me.
Mais pour son directeur créatif, le concept de Rematch n'est pas si éloigné de celui de Sifu.
Le corps en mouvement, la chorégraphie, il y a quelque chose qui est très beau dans le football. C'est une beauté, une élégance qu'on peut retrouver dans les arts martiaux et que j'avais envie de retranscrire dans un format de jeu vidéo.
L'idée, c'est de mettre du sang neuf dans le genre très fermé du jeu de foot, dominé par une seule série.
On arrive avec une proposition qui est radicalement différente. Dans notre jeu, il n'y a pas de vrais joueurs de football. C'est dans un univers qui est dans un futur d'anticipation. C'est dans quelques dizaines d'années. On ne cherche vraiment pas à s'associer au football contemporain. La vision du jeu est quand même celle de l'essence du football, des actions extraordinaires, un jeu d'équipe très précis et tactique et une pression permanente.
Ronaldinho, lui, semble déjà convaincu.
J'aime les dribbles.
Ouais, il aime dribbler Ronaldinho, même avec une manette de vidéo à la main. Reportage d'Olivier Bénis. Le temps.